BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
10h03 sur BFM Business, l'heure de votre demi-heure quotidienne pour parler immobilier, pour parler de nos logements. Et comme vous en avez, je l'espère, désormais l'habitude, cette émission démarre toujours par cette séquence. Le pro de l'IMO, vous êtes professionnel de l'immobilier ou du logement au sens large. Vous avez un témoignage terrain, coup de cœur, coup de gueule à nous transmettre. Vous nous écrivez à cette adresse, les experts de l'IMO @bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, on va parler succession et rétractation. Vous allez voir, c'est des projets comme ça qui peuvent parfois être compliqués à mettre en œuvre. Ensuite, le débat du jour avec les meilleurs experts du secteur. Aujourd'hui, entre les charges de copro et les loyers, que faire dans des situations d'impayés? Là encore, les meilleurs experts sur le plateau de BFM Business. Mais tout de suite, le pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Sylvain Pruvot, responsable de l'agence Côté Particulier à Saint-Paul-sur-Ternoise, et on est dans les Hauts-de-France. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marie.
Alors bonjour. Aujourd'hui, votre histoire, elle peut tous nous concerner un jour ou l'autre, celui d'une succession, d'un bien qu'on souhaite vendre, mais pas forcément tous, tout le temps, tout de suite, toujours. Comment ça s'est passé? Je vous écoute.
Voilà, donc effectivement, une succession, quatre héritiers. Le mandat est signé par les quatre héritiers, mise à prix 250 000 euros. Rapidement, on trouve un acquéreur, une offre d'achat est signée. Les quatre héritiers signent l'offre d'achat au prix du mandat, 250 000 euros. Je tiens à le préciser puisque la vente est parfaite, vente au prix du mandat. Acte de pollicitation. Et j'allais donc partir sur la rédaction du compromis de vente. J'envoie le projet et à partir de là, il y a des bruits qui courent. Un des héritiers ne veut plus vendre. Que fait-on? Comment on peut faire? Donc je convoque à la signature du compromis, mais rien à faire. Il veut plus vendre. Donc là, c'est là qu'on a besoin de conseils. Et je fais faire une sommation interpellative par voix d'huissier.
Oulala, c'est quoi, Sylvain, ça, la sommation interpellative?
C'est pour rappeler un peu au vendeur qui ne veut pas signer qu'il s'est engagé dans un mandat et qu'il n'a pas le choix que de signer le compromis de vente, il n'a pas le choix, donc on lui fait valoir par voie d'huissier, pour l'interpeller, comme le dit la sommation.
Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que ça y est, la vente a été engagée.
Non, la vente n'a pas été engagée puisqu'il a continué à faire la sourde oreille. Donc c'est grâce au notaire. Donc c'est pour ça qu'on voit que la chaîne notaire huissier est importante dans notre métier d'agent immobilier. C'est le notaire qui arrivait à raisonner, mais je vous dis pas comment ça a été long. Et puis mon acheteur qui était très impatient. Mais finalement, donc on est arrivé par la voie du notaire à obtenir la signature de ce vendeur qui était défaillant. Alors je sais pas pourquoi. Il signe un mandat, mais après, il voulait rien signer d'autre.
Ça arrive souvent, Sylvain. Une dernière question, c'est rétractation dans le cadre d'une succession avec différents héritiers qui sont pas forcément tous d'accord les uns avec les autres?
Non, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Là encore dernièrement, pour faire un peu le penchant, là c'était un acquéreur qui ne voulait plus signer. En fait, il signe le compromis de vente, il n'avait pas montré la maison à son ami, il montre la maison à son ami, donc tout ça après le délai de rétractation, pas de conditions suspensives, pareil, il veut plus acheter. Il veut plus acheter, donc il vient pas à la signature de la vente convoquée par le notaire. Donc là, le notaire fait un procès-verbal de difficulté et on procède derrière. Donc c'est là où on voit l'intérêt de bien rédiger les avant-contrats et que ce soit vraiment carré, quoi. Parce que les gens aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'ils signent, c'est des feuilles de chou, alors qu'il y a des engagements qui sont pris, quoi.
Merci Sylvain. Sylvain Pruvot, responsable de l'agence Côté Particulier à Saint-Paul-sur-Ternoise. On est dans les Hauts-de-France. Si comme Sylvain, vous avez des témoignages, des expériences terrain à partager avec nous, je rappelle l'adresse, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Et vous voyez à quel point c'est important quand on achète en immobilier de se faire bien entourer, bien conseiller, parce que parfois parfois l'engagement, bah, comme le disait Sylvain, c'est pas des feuilles de chou tout ça. En parlant de chou, on en vient au débat. Aucun lien, aucune transition, c'est l'heure du débat dans les experts de l'IMO tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Aucun lien, non, aucun. À mes côtés, Zahir Kinou pour le Foncier ADB. Vous êtes le président de Foncier ADB. Bonjour Zahir.
Bonjour Marie.
Bon, je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Et à ma droite, bon, on le connaît bien sur BFM Business. C'est la première pour Zahir, c'est la millième pour Brice Cardi, président du réseau L'Adresse. Bonjour Brice.
Bonjour Marie.
Bonjour, bon, on est bonjour, ensemble Gilles. Tous les trois.
Brice.
Ça commence bien.
Non, on avait dit qu'on se ferait une petite vanne comme ça pour détendre l'atmosphère.
Pour bien démarrer. Et
ça me va bien, Gilles.
Ce début d'émission ne ressemble à rien du tout. Pourtant, on va parler de sujets super sérieux, puisqu'on va parler de nos loyers quand on est locataire ou même quand on est propriétaire bailleur, et de nos charges quand on est copropriétaire au sein d'une copropriété, et des impayés, parce que ça existe quand même. Donc, on va démarrer notre sujet sur les loyers, déjà. Première question, Brice, on en est où des impayés de loyers ?
Alors, on est toujours sur le même constat, c'est-à-dire que finalement, et rappelez-vous, j'étais venu, je crois, en septembre, on avait fait un sondage avec un sondeur professionnel et on avait été assez stupéfait finalement de la première réponse qui était celle des investisseurs à avoir du mal à s'engager, parce que c'était ceux qui étaient aux abonnés absents à la rentrée de septembre de l'année dernière, et c'était justement le risque de squat et d'impayés. On pensait que ça serait les DPE, on pensait que ça serait les prix. Ben, en premier lieu, c'était les impayés et le squat. Et important de rappeler que finalement, alors attention, hein, je vais modérer ce que je vais vous dire. La moyenne, généralement, on est toujours à peu près à 3-3,5 d'impayés. Donc,
on parle,
quand ça vous arrive pas, finalement, on fait beaucoup de bruit, pas grand-chose. Après, c'est là qu'il faut en effet extrêmement être dans l'humain. Et quand ça vous arrive, ça vous tombe dessus, quel que soit votre profil, ça peut se transformer en drame.
Oui, c'est ça. On a les chiffres là du gestionnaire ImmoDirect qui nous disent qu'en janvier 2025, on était précisément à 3,4% de taux d'impayé. Alors attention, hein, on est sur des relances à J+30. Je considère ça comme un vrai impayé parce qu'en fait, ImmoDirect regarde aussi les relances à J+1, +3, +4. Enfin voilà. Et effectivement, à ce tarif-là, il y a une part de baux concernée qui est bien plus importante. Mais sur ces impayés, donc 3,4% en janvier 2025 contre moins d'1% en janvier 2020. Donc, il y a quand même un sujet.
Il y a un vrai sujet.
Il y a un sujet. Maintenant, on rappelle quand même que tous ces impayés ne terminent pas devant la justice avec des cas un peu dramatiques pour le propriétaire bailleur qui n'arrive pas à récupérer les lieux. Hein, on est d'accord.
Tout à fait. Et dans le cas qui était cité sur l'histoire de la succession, finalement, ce qu'il faut retenir... Je pense qu'on partagera ce point de vue avec Zahir, c'est que, et c'est là qu'on se rend pas assez compte du travail que font au quotidien nos collaborateurs, c'est la communication. Le vrai sujet, quel que soit l'impayé, qu'on parle de charges de copropriété ou de loyer, c'est la communication, et c'est quand vous n'avez plus de lien avec le débiteur que là, la situation se complique.
Justement, ça, Zahir, un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que je fais, moi, si je suis propriétaire bailleur, que j'ai mis mon bien à la location, et que je me rends compte que mon locataire, bah là, il arrive pas à payer?
Je pense qu'il y a plusieurs sujets, Marie, je suis complètement d'accord avec ce que disait Brice à l'instant. Le premier sujet, c'est déjà la sélection du candidat locataire à l'entrée des lieux. Et c'est vrai que là aussi, on se rend compte, notamment pour les professionnels que nous sommes, qu'il y a de plus en plus aussi de faux documents. Donc, typiquement chez Foncia, on a mis en place des outils digitaux qui permettent de venir vérifier les bulletins de paye,
ouais.
De détecter en fait les faux et l'usage de faux, ce qui se pratique assez régulièrement. Et donc ça, c'est le premier sujet, le premier postulat, c'est comment on va sélectionner, donc comment on va former nos collaborateurs, comment on va rassurer le propriétaire bailleur, cet investisseur que vous représentez dans l'exemple que vous donniez, pour justement éviter une catastrophe, un drame humain, à la fois pour le locataire présent dans les lieux, mais également pour le propriétaire bailleur. Ensuite, il y a aussi des modalités qui sont bien connues, je pense aussi chez vous, Brice. On va mettre en place ce qu'on appelle une garantie de loyer impayé, ce que nous faisons chez Foncia, ce que beaucoup d'acteurs font aussi dans la profession, ce qui va permettre justement au propriétaire bailleur de se voir rassuré. Typiquement chez Foncia, si le locataire il rentre le 1er janvier et qu'il ne paye pas le 31 janvier, dès le 5 février, il a la mise en place d'une avance de garantie loyer impayé qui va permettre de couvrir ce qui n'a pas été reversé par le locataire. Et dans la foulée, c'est ce que disait Brice tout à l'heure en termes de communication, nos services, tant au niveau gestion locative, mais également services recouvrement, donc des services d'expertise que nous avons au sein de nos 700 agences, vont prendre contact avec ce locataire pour mettre en place un échéancier de paiement, etc., pour éviter de recourir à la justice, comme vous le disiez tout à l'heure, Brice.
Et messieurs, est-ce qu'on a une idée du profil ? Je vous pose la question, parce que bon, j'ai quand même envie d'en parler, de ces locataires qui parfois ont du mal à payer. Et, parce que, alors, j'avais enquêté sur le sujet il y a quelques mois, et un gestionnaire m'avait dit, c'est pas forcément ce qu'on croit. Ouais. Est-ce que c'est le cas, Brice ?
Ah bah, alors, je vais vous dire plusieurs choses, parce que comme vous le savez, le réseau que je représente, l'Adresse, est une coopérative, donc j'ai double casquette, je suis à la fois président du réseau, mais aussi associé sociétaire, et j'ai la chance de faire ce métier depuis bientôt 30 ans, et j'ai commencé, et j'ai beaucoup fait, de location. Eh bien, figurez-vous que, contrairement aux idées reçues, on n'a pas forcément le profil auquel on pense.
C'est-à-dire pas forcément le profil des
mauvais
payeurs, modestes.
C'est pas forcément ceux qui sont les plus modestes. Vous savez, ceux qui sont les plus modestes sont souvent ceux qui sont les plus respectueux, et l'importance d'avoir un toit dans lequel on se sente bien, on n'a pas envie de le perdre. Alors, je ne vais pas citer de profession parce que j'ai pas envie.
Je vais le faire après, vous inquiétez pas.
Je vais pas me faire d'ennemis. J'ai pas envie de me faire d'ennemis aujourd'hui, mais clairement, on va dire que plus vous connaissez la loi, plus vous maîtrisez le droit, plus vous êtes entouré, voire même parfois même sous votre propre foyer, ou même si vous-même vous êtes professionnel du droit, on va dire que. Alors attention, hein, je veux pas généraliser, mais on a bizarrement plus souvent des mauvais payeurs, on va dire presque aguerris et professionnels. Et je vous dirais aussi une autre chose, c'est que, outre les difficultés qu'on peut avoir dans une vie avec une perte d'emploi, des difficultés, une séparation, bon bref, généralement, le vrai mauvais payeur qui le fait limite de mauvaise foi absolue, il paye jamais. C'est-à-dire que généralement, quand ça doit pas bien se passer, ça se passe pas bien dès le départ.
Ouais, c'est ça. Ça n'arrive pas, ou alors c'est que c'est vraiment un problème. Juste d'un mot, parce que c'était un gestionnaire que j'avais eu en ligne à l'époque et qui me parlait, il citait, hein, nommément, vous le faites pas, Brice, et je l'entends.
Je ne le ferai
pas. Il me citait les commissaires de justice, les avocats, les notaires et parfois même les agents immobiliers. Voilà ce que me disait à l'époque ce gestionnaire quand il devait aller faire un portrait robot de ceux des traits communs qu'on retrouvait le plus ou des professions qu'on retrouvait le plus dans ces mauvais payeurs. Zahir, une question. Vous parliez de cette assurance, cette garantie contre les impayés de loyer, elle a un coût quand même, cette garantie.
Ah oui, elle a un coût. Alors, chez Foncia, elle est de 3,48%.
Ouais.
Mais j'ai envie de dire, c'est quasiment une assurance de dormir tranquille pour les propriétaires bailleurs, avec une avance permanente et peu importe, j'ai envie de dire, les échéanciers de paiement du locataire.
Donc, et vous pensez quoi de Visal ? La garantie contre les impayés de loyer, mais qui est accessible gratuitement et pour les propriétaires et pour certains locataires.
C'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce que ça nous permet aussi, dans notre profession, où on voit une forte opposition entre les résidents, donc à la fois les propriétaires, les copropriétaires et les locataires. Et c'est vrai que Visal permet de rassurer un peu tout le monde et d'éviter d'opposer les résidents entre eux.
Pour terminer sur ce sujet, Brice, par contre, si je prends une garantie contre les impayés de loyer, je ne peux pas demander de garant, c'est ça?
On
ne
peut pas doubler.
Tout à fait.
Alors, juste rebondis, parce que Zahir a très bien fait de parler de l'assurance chez Foncia. L'importance de rappeler également, par rapport à notre mode coopératif, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais venu également vous dire qu'on avait été le premier réseau indépendant à avoir notre propre garantie, à savoir, donc on est courtier également en assurance, c'est très récent, depuis septembre de l'année dernière. Et dans ce cadre, on a construit une assurance loyer spécifique avec deux choses assez singulières et pour l'instant exclusives et inédites. La première, c'est qu'on n'a pas de plafond sur les garanties. Ramener avec des loyers qui ne doivent pas dépasser 3 000 ou 3 500 euros par mois, il n'y a pas de plafond sur la prise en charge, avec bien évidemment tout ce qui va dedans, les dégradations, la protection juridique pour tout couvrir les frais de procédure. Et surtout, rappelez-vous, une spécificité, pour l'instant, on est la seule assurance dans le réseau de l'Adresse, c'est la garantie anti-squat. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on est vraiment à la marge. Oui, je sais que je savais que vous feriez l'amour.
Mais
entre deux locations, vous êtes squatté, ça vous tombe dessus, ça ne rentre pas dans le cadre de toutes les assurances
qu'on a payées.
Chez nous, oui.
Mais Brice, Zahir, et pour conclure sur ces sujets loyers, on va passer aux charges de copro, mais pour conclure là-dessus, on parle des impayés de loyer, n'empêche, ça reste ultra minoritaire.
Oui, mais comme je vous le disais, si ça vous tombe dessus, quel que soit votre profil, ça peut être un drame.
On est d'accord.
Vous êtes retraité, vous avez payé toute votre vie, vous êtes embêté toute votre vie à faire le changement de locataire, le coup de peinture, et vous vous retrouvez avec votre retraite et vous l'avez pas. Vous avez bien vu même parfois des documentaires où vous avez parfois des bailleurs qui dorment dehors.
Non, mais Brice, on est d'accord. Maintenant, mon sujet, c'est plus de dire, est-ce que finalement, pour relancer l'investissement locatif, on n'aurait pas tout intérêt justement...
Rendre obligatoire l'assurance loyer impayé ?
Alors, rendre obligatoire l'assurance contre les loyers impayés, moi, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça rassure tout le monde, mais aussi, nous, faire notre rôle d'information et de dire, effectivement, vous avez des cas pour qui ça devient dramatique. Mais rassurez-vous, quand même, on est sur un sujet et une problématique qui reste minoritaire. Vous le disiez dans une étude que vous aviez fait récemment, on voyait que la première des inquiétudes des investisseurs ou des néo-investisseurs, c'était l'idée d'avoir des impayés ou des squats. Si on leur dit, oui, on comprend votre inquiétude, mais comme la plupart des peurs, elle est assez irrationnelle, parce que, chiffres à l'appui, tous les réseaux que j'ai interrogés, on est sur des niveaux quand même historiquement élevés, mais qui restent hyper bas quand même, non ?
Ouais, mais c'est le paradoxe. C'est-à-dire que c'est un peu comme le froid. Parfois, il fait très froid et on n'a pas froid, et parfois, il fait pas froid et on a très froid.
Oui, mais c'est la question du ressenti, mais en même temps,
mais le ressenti,
réalité,
même si les chiffres apportent la preuve que c'est que 3%, n'empêche que quand on sonde les Français, eh ben, ceux qui sont investisseurs, ils ont du mal à s'engager. Pour la majorité
d'entre eux. Qui a raison, les faits, les chiffres ou le ressenti.
Je suis complètement d'accord avec Brice, c'est qu'il y a un vrai levier psychologique et je pense que c'est très franco-français, permettez-moi de le dire. Et je pense qu'il y a ce pas qu'on doit franchir quand on est investisseur pour la première fois. On sait que c'est la fin des dispositifs fiscaux depuis peu de temps. Et c'est vrai qu'on a rencontré aussi plusieurs clients qui, pour franchir ce cap psychologique, quand on propose à l'adresse l'assurance dont vous parliez, ou encore chez Foncier à la garantie loyer impayé, tout de suite, ça vient rassurer les bailleurs, mais ça rassure aussi quelque part les locataires. Et ça permet, comme Vizal, comme vous le disiez tout à l'heure Marie, d'éviter d'opposer en fait locataires et bailleurs, et on sait que c'est une problématique générale dans ce pays.
Je rebondis sur ce que disait Eric, vu qu'il parle d'assurance, je remets juste une petite couche, parce qu'on là on parle...
Et une mini-couche, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder les charges.
Petite couche, on a parlé des bailleurs pour les locataires, juste dire que justement notre assurance permet également au locataire de s'assurer. C'est-à-dire qu'un locataire qui a un profil un peu singulier, il va avoir en quelques instants, grâce à un système qu'on a mis en place, soit avec les impôts, soit avec les relevés bancaires, il va être capable de lui-même apporter sa propre garantie d'assurance.
Oui, et puis c'est important pour conclure là-dessus de dire aux locataires, aussi bien il ne faut pas stigmatiser les locataires, on l'a bien dit, mais il ne faut pas stigmatiser les propriétaires non plus. Vous avez un pépin financier. Parlez-en tout de suite aux propriétaires. Vous seriez surpris de la confiance que ça peut aussi engendrer de pouvoir discuter et dire voilà, ce mois-ci ça va être compliqué et parfois ça peut régler tout un tas de problèmes. Je pense que voilà, les règlements à l'amiable de ces sujets-là sont à privilégier dans ces cas-là. Bon, les charges dans les copros, on a dit que ça avait flambé avec l'augmentation des coûts de l'électricité. On en est où, Zahir ? Vous avez regardé pour nous chez Foncia, où est-ce qu'on en était ?
Complètement. Après, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de faire peut-être un rappel un peu contextuel. Je pense que ça a échappé à personne. Comme beaucoup de pays dans le monde s'ennuyaient post-Covid, certains ont déclaré la guerre en Ukraine en 2022 et donc ça a provoqué un affolement complet des marchés de l'énergie et donc ce qui a provoqué une envolée spectaculaire des prix de l'électricité et des prix du gaz. Et donc juste un chiffre quand même, c'est important de le noter, en 2022 c'est plus 57% sur le prix de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé sur le temps 2 et voire le temps 3 en 2023-2024? Donc 2023-2024, nos copropriétaires que nous gérons au sein de nos 70 000 immeubles chez Foncia ont continué à avoir des dépenses, des charges sur les coûts de l'énergie très élevés. Pourquoi ? Parce que, faut le rappeler aussi pour les personnes qui nous regardent, en 2023, en 2024, on est sur des contrats qui ont été signés au plus fort de la crise énergétique en 2022.
Ouais. Ce qui fait que
il y a un décalage, ce qui fait qu'en 2023, nos copropriétaires ont continué à avoir des dépenses énergétiques colossales. Fort heureusement, courant 2023-2024, est arrivé le bouclier tarifaire. Et donc, tous nos gestionnaires se sont fortement mobilisés pour mettre en place, en parfaite coordination avec un département qu'on a la fierté d'avoir chez Foncia, qui s'appelle le département maîtrise des charges, on a pu mettre en place les bouquets tarifaires sur l'ensemble de nos copropriétés, et ce qui nous a permis de collecter pas moins de 15 millions d'euros. Donc c'est juste colossal. Et donc ce qui nous permet de constater en 2024, finalement, une stabilité des charges de copropriété, d'accord, malgré la hausse de l'énergie.
On est à 1440 euros par copropriétaire en moyenne par an.
Exactement, on est à 1440 euros par logement par an en 2024, ce qui fait que versus 2023, c'est une augmentation moyenne globale de 3,82%. Et donc comment on a fait cela, donc avec la mise en place des boucliers tarifaires, le département maîtrise des charges qui nous permet aussi d'aller négocier des accords cadres. Puis après, je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est vrai que on parle beaucoup des charges de copropriété. Je pense que c'est important de rappeler ce qu'on a dans les charges de copropriété.
Ouais, c'est ça. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce qui pèse le plus lourd et finalement qu'est-ce qui pèse le moins.
Peut-être, Marie, avant d'aller sur le détail et typologie de charges de copropriété, je pense que c'est important pour les personnes qui nous regardent d'expliquer qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer complètement nos dépenses en charge de copropriété. Ces facteurs, ils sont évidemment le bâti, les équipements de l'immeuble, la taille de l'immeuble, l'âge de l'immeuble, l'entretien de l'immeuble et de ces équipements-là, et évidemment la présence ou non d'un employé dans l'immeuble. Et donc après, on arrive sur le constat qu'on a pu faire en France, sur nos 70 000 immeubles, sur globalement cette typologie de charges. Donc le premier poste de charge de copropriété, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les combustibles. Donc les combustibles, globalement, c'est la consommation de chauffage qui va peser pas moins de 22%. Donc c'est juste colossal. En deuxième position, on a, je l'ai évoqué tout à l'heure,
les gardiens,
les employés d'immeubles, donc qui pèsent pour 14%. En troisième position, lorsqu'on n'a pas un gardien, on va faire appel notamment à des sociétés de ménage, sociétés d'entretien de ménage, là ça va peser 10%. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est contrat de maintenance, donc qui est en relation avec les combustibles. Donc là, ça va peser 9%. Et ensuite, de façon quasi équitable, on a 7% pour l'eau, 7% pour l'assurance.
On l'évoquait tout à l'heure. Et 7% pour vous, Zahir.
Et 7% pour les honoraires de syndic, tout à fait, pour notre profession. Ce qui fait que globalement, si on le rationalise, pour une dépense d'une centaine d'euros par mois, on a déjà les combustibles, le chauffage, l'entretien de ces équipements-là, qui va peser 31 euros par mois. Ensuite, on a 14 euros, effectivement, pour les employés de l'immeuble, 10 euros, effectivement, pour toute la partie ménage, et de façon équitable, 7 euros pour l'eau, l'assurance et les honoraires de syndic. À l'intérieur de ça, ce qu'on constate, c'est qu'on a des disparités. Et ça ne va pas vous surprendre.
Ouais, les disparités géographiques.
Entre évidemment les géographies. Alors chez Foncia, on est répartis en 8 secteurs géographiques. On a évidemment, et là j'apprendrai rien à personne, Paris qui arrive en tête de gondole.
On ne va pas tous les faire, Zahir, mais juste nous dire l'écart qu'il peut y avoir entre Paris.
45%.
Ouais, c'est énorme. 45%. En gros, Paris de mémoire, donc c'est ça, 2100 euros en
versus
moyenne.
Versus 1440 pour le national. Et 2100 euros, il faut aussi l'expliquer. Paris, là pour le coup, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, donc les coûts de la vie est beaucoup plus cher.
Les intervenants.
Exactement.
Et après, avec une singularité quand même, je ne peux pas vous interrompre.
Ah ben non, avec...
Les gardiens, c'est très parisien. Ben...
Complètement. Donc, chez Foncia, Brice, bravo pour cette magnifique transition.
Oh ben je vous laisse.
Merci.
On a bien fait le préparer.
Et donc, les gardiens, c'est 5200 gardiens employés d'immeubles que nous gérons chez Foncia. Et sur le secteur parisien, c'est 1600 gardiens. Et donc, quand on sait que les gardiens pèsent 14%, finalement, ça explique et ça justifie cette part importante à Paris.
Brice, il nous reste encore quelques minutes, malheureusement pas assez, parce que nos sujets sont toujours passionnants, il faudrait qu'on ait trois heures des experts de l'immo
quotidien. Qu'est-ce que je peux rajouter ?
En fait, moi je voulais parler de... On a parlé du poids des charges, du fait qu'il se stabilisait, que c'était essentiellement lié à l'électricité quand même, et au chauffage, au sens large d'ailleurs. Est-ce que quand même il y a un sujet sur les impayés, puisque le sujet c'était celui des impayés dans les copropriétés ?
Vous savez que j'essaye toujours d'apporter une petite note optimiste.
Ouais.
De toute manière, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter après le propos de Zahir qui était extrêmement précis sur le détail, en effet, de la répartition de qu'est-ce que comporte et qu'est-ce qui coûte finalement aux copropriétaires. La bonne nouvelle quand même, c'est que contrairement en effet à ce qu'on aurait pu imaginer, en effet, les charges n'ont cessé d'augmenter, finalement, au niveau des impayés, ça se stabilise. Et si même on compare en 2022 par exemple, il y avait 17% d'impayés sur le territoire national. On est aujourd'hui à quelque chose qui redevient stable. À 2023, 11%. Et on reste en 2024, pareil, à 11,5%. Donc, je pense que la bonne nouvelle, et c'est marrant parce que ce n'est pas tout à fait le même constat, on ne va pas revenir sur l'histoire des loyers impayés, mais il y a une sorte de solidarité dans l'immeuble qui fait que quand on est copropriétaire, on n'a pas forcément envie de se mettre en danger et en danger auprès de ses voisins, auprès de ses copropriétaires. Donc finalement, malgré ces hausses, finalement, les copropriétaires ont su apporter la preuve qu'ils arrivaient à rester finalement de bons payeurs. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation d'impayés aujourd'hui au niveau des copropriétés. Pas plus qu'on pouvait l'imaginer.
Je voulais quand même dire d'un mot, parce que vous citez à juste titre le registre national des copropriétés qui est établi par l'ANA. Il y a quand même un seuil qu'on appelle un seuil d'alerte. C'est quand on est au-delà.
20%.
Même au-delà des 20%, au-delà des 20%, avec encore plus au-delà des 30%, et on est quand même à 54 653 copropriétés en 2024 qui sont au-delà des 31% d'impayés. On est d'accord qu'effectivement, il y a une forme de stabilisation, mais il y a quand même des situations de copropriété où les finances sont très dégradées et où il y a des vraies problématiques. Il nous reste une minute. Je veux un conseil chacun. Si je suis copropriétaire et que j'ai une difficulté à payer mes charges, que dois-je faire?
Je prends contact avec mon gestionnaire, je communique, je suis transparent. Le vrai cauchemar que subissent aujourd'hui nos collaboratrices et nos collaborateurs, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on évite, et c'est là qu'on essaye, en effet, d'être extrêmement proche entre confrères, entre cabinets, c'est la communication. Vous avez un bailleur dans une copropriété, il est géré par Foncia, nous on gère la partie copro, on n'a pas de nouvelles du bailleur pour l'acquittement de ses charges, on va s'appeler, on va essayer de trouver une solution. Le plus important, c'est la communication.
Transparence, communication et surtout appeler son gestionnaire et après les services d'expertise, donc on parlait du contentieux et du recouvrement, pour communiquer en amont afin d'éviter les drames humains qu'on évoquait tout à l'heure également sur la partie gestion locative.
Et on peut tenter un rééchelonnement aussi
complètement. On peut tenter un rééchelonnement, on peut aussi faire un appel de fonds complémentaire, on peut aussi mettre en place un fonds de roulement spécifique, ce qu'on appelle une trésorerie exceptionnelle, donc les solutions existent et elles sont réglementées.
Et bien une voie qu'il faut éviter la voie judiciaire.
Voilà. Et ben voilà,
elle prend beaucoup
on terminera
de temps
là-dessus.
Et elle coûte plus qu'elle rapporte.
Merci messieurs. Brice Cardi pour le réseau L'Adresse, Zahir Kinou pour Foncia ADB. On a parlé loyer, on a parlé charges, on a parlé impayés. Solution à l'amiable, il faut parler, communiquer dans ce monde de brut. Demain, on parle DPE. Est-ce qu'il faut se fier au DPE et au diagnostiqueur? Vaste question. Ce sera demain dans les experts de l'IMO. Et d'ici là, rendez-vous avec Lorraine Goumeau tout de suite pour Tout pour investir. Moi, je vous dis à demain.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.